Nous allons commencer cette séance du conseil municipal. Donc vous avez... je vais d'abord vous procéder à l'appel. Isabelle Touzard, présente. Gilles Cousin.
Présent.
Juliette Paproki-Camard.
Présente.
Gilles Chicot.
Présent.
Séverine Ségismond.
Présente.
Corinne Durand.
Présente.
Mélanie Arnal.
Présente.
Hélène Bonnet-Cuel. Dominique Baril, donc absent, a donné pouvoir à Laurent Mailloux. Guillaume Garcin.
Présent.
Laurent Mailloux.
Présent.
Jean-Claude Mouret, donc absent, a donné pouvoir à Juliette. Paproki Camard, c'est ça. Claudine Moyane.
Oui, présent.
Patrick Ortigoza.
Présent.
Véronique Pomared, absente, a donné pouvoir à Corinne Durand.
C'est ça.
Laurent Pratt.
Présent.
Laurence Rousseau.
Présente.
Bernard Seno, absent, a donné pouvoir à Laurent Pratt. Et Yolande Théron. Merci. Donc, le quorum largement atteint, nous pouvons valablement délibérer. Vous avez reçu l'approbation de l'ordre du jour de ce conseil. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Je le mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. On va désigner un secrétaire de séance. Qui veut bien le faire cette fois? Une nouvelle personne. Hélène Bonnet-Cuel, merci. Ensuite, vous avez reçu l'approbation du compte-rendu du Conseil du 1er octobre. Est-ce qu'il y a des observations? Pardon? S'il n'y a pas d'observation, je mets au vote. Qui est contre, qui s'abstient, le compte-rendu est adopté à l'unanimité. Et donc on passe au premier point de la première délibération qui concerne un fonds de concours entre la commune et la métropole. Pour la voirie, c'est Séverine qui nous présente ça.
Donc le fonds de concours entre la commune de Muriel et Montpellier et la métropole. Donc les travaux de voirie, d'entretien de la voirie et de la terrasse publique sont aujourd'hui une compétence métropolitaine. La commune a décidé d'attribuer un fonds de concours pour participer financièrement à la réalisation des travaux. Et donc sur ce point, il est demandé d'accepter la somme de 85 000 euros de contribution de la commune pour les travaux suivants. Donc travaux de voirie rue Champ des Moulins, travaux d'enfouissement des réseaux rue de Champ des Moulins. Donc soit une participation totale de 15,5% du montant total hors taxe des travaux. Donc il est demandé au conseil d'approuver le versement du fonds de concours de 85 000 euros et d'approuver la convention qui définit les modalités de mise en œuvre de ce fonds de concours. Et d'autoriser Madame le maire à signer la convention.
Peut-être on peut faire un historique, comme c'est la première fois qu'on vote un fonds de concours dans cette équipe, sur le transfert de compétences voirie et la mise en place de ces fonds de concours. Donc les élus qui étaient là présents dans l'ancien mandat le connaissent déjà le système, puisque c'est un système un peu particulier. Si je peux me permettre, hein, Séverine, que ça permettra, c'est à dire qu'au moment où la commune a transféré en 2015 la compétence voirie à la métropole qui venait d'être créée le 1er janvier 2015, on a transféré en même temps donc tous les moyens afférents et le budget que ça a été calculé hein, sur les moyennes lissées sur 10 ans, le budget que l'on mettait, que la commune mettait à profit pour la voirie. Alors c'est une moyenne qui a été calculée sur 10 ans. Donc il y a eu un calcul en fonctionnement, un calcul en investissement. Et donc en investissement, de mémoire, la moyenne des investissements de la commune sur 10 ans avant 2015 était de l'ordre de 70 000 euros par an. Net de la commune, hein, je ne prends pas en compte les subventions qu'on pouvait toucher, etc. Soit c'est pourquoi, parce que pendant 10 ans, globalement, la commune de Murviel avait fait relativement peu de travaux de voirie, et donc la moyenne lycée sur 10 ans était, la moyenne était assez, voilà, 70 000 euros. Donc c'est ce qu'on a transféré à la métropole. Et donc Murviel fait partie de ces communes de la métropole, il y en a 31, qui, à la différence d'autres communes qui, elles, pendant 10 ans, avaient fait beaucoup de travaux, avaient donc se retrouvé à transférer une attribution de compensation qui était élevée. Donc c'est un peu compliqué, parce que certaines communes avaient fait beaucoup de travaux, transféré une attribution de compensation élevée, et n'avaient plus beaucoup de travaux à faire. Une commune comme Murviel a un passif, je dirais, enfin un passé plutôt, de faible investissement, donc transfère une attribution de compensation relativement faible à la métropole. Or, les travaux sont à faire maintenant, je ne sais pas si je suis claire. Donc c'est l'idée qui a été mise en place en conférence des maires, c'est cette idée de fonds de concours, c'est-à-dire que la commune subventionne quelque part la métropole pour aller au-delà, pouvoir faire des travaux qui vont au-delà de 70 000 euros par an, en moyenne. Et là, c'est le cas de la ville du Champ des Moulins, hein, parce que ça, c'est Patrick qui a suivi toute la mise en œuvre. Voilà, le bébé, on va dire, le gros bébé là, qu'on a eu, ce Champ des Moulins. Mais c'est... Alors, le Champ des Moulins, il y a deux choses. Il y a la partie assainissement, c'est pas dans la compétence voirie. Hein. L'assainissement, c'est une compétence qui a été transférée depuis belle lurette. Et où il n'y a plus de ce type de calcul. Mais là, c'est sur la partie voirie, on est à, et enfouissement de réseau, on est à presque 500 000 euros, non, 400 de travaux au total. Voilà, et donc l'idée, c'est que l'attribution de compensation de 70 000 euros par an, même si on cumule sur deux années, ne suffit pas à financer les travaux. Donc en plus, on apporte ce fonds de concours, qui est une sorte de subvention. 85 000. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette proposition de fonds de concours, des observations? On peut en profiter pour dire que les travaux, peut-être un petit mot sur les Champs des Moulins. Patrick, on en est des travaux, c'est bientôt fini.
Les travaux avaient été finis, donc, et on attaque la discussion sur le prolongement de la rue Champs des Moulins et la Vessalinière. En revanche, chez nous, c'est terminé. Tous les petits désagréments ont été réglés. Je reste dans la Houmout, là, qui avait un petit souci, là, qui est plus de stationnement, donc qui l'a fait remonter un peu dans la. Plus de vraiment technique, parce qu'on a des coups qu'il n'y avait pas. Toujours par rapport à, donc, au déplacement de l'avenue d'un côté qui a supprimé les places de parking. Donc là, par contre, ça fait du malheureux. À part ça, tout le reste, c'est tout passé. Quoi.
Il ne reste plus qu'à poser la signalétique, à régler le stationnement et la gestion de la circulation sur la partie haute.
Alors,
aussi, hein, et faire tous les arrêtés de police sur la route.
On va positionner les places de parking peintes sur le sol en quinconce dans la descente. Vous ne devez pas être fait, qui a été fait finalement à l'arrivée, parce qu'elle a un peu vite les voitures. Donc on a fait passer la TAM et Eurotransport. Ils nous ont validé les places. Il n'y a que les trois devant le chef Philippe qui font remonter un petit peu. On essaie plus de places pour plus qu'ils puissent se garer mieux avant le virage. Sinon, ça a été validé. Donc ça va être dans les prochaines mesures à faire sur la route. Je vais les arrêter de fait pour le masse de garer. Tout à l'heure, ça va arriver, donc pour changer le sens de circulation au passage étroit, pour que les gens s'arrivent face à face, il y a continuellement le droit à cause de la venue qui devenait dangereux, déjà reste dangereux, mais avec tout du fait de la construction de la maison, on ne voit plus, donc on est obligé d'avancer les nids pour voir avec plus qui rate le bord parce qu'il est obligé de se déporter, ça devient trop dangereux. Donc on le remet en sens comme c'était à l'époque, face à face, avec une priorité pour ceux qui sortent de la venue. Et normalement, d'ici la fin de l'année, on devrait faire les enroulés, fabriquer les enroulés pour tout le mal de Garin, l'endroit où c'est tout abîmé, pour rejoindre donc, les endroits qui ont été faits côté route de l'air et côté Champ des Moulins pour raccorder tout ça proprement.
Je crois que depuis le Mas de Garin jusqu'au Saligné, il y a presque 1 km de voirie qui vont être faits.
Fin 2021, pour partir de la mairie jusqu'au Saligné par un mois, c'est de voir tout de même. Et on voit de plus en plus des gamins faire du vélo, de la trottinette, du roller, et pas du quartier, des gamins qui viennent même des autres quartiers. Tous les soirs, tu as des gamins qui...
Bon, par rapport au foot concours, est-ce qu'il y a des questions, des observations? Donc, je vais le mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté à l'unanimité. Donc, oui, j'ai oublié de dire un petit détail technique aussi. Ça n'apparaît pas encore, c'est une convention qu'on voit, c'est une subvention. D'un point de vue budget, ça va se concrétiser au budget 2021, puisque c'est au moment où la métropole va nous envoyer les factures pour qu'on verse sa subvention, c'est là où ça va apparaître au budget. Ça n'apparaît pas au budget 2020, en fait. Ça apparaîtra au budget 2021. Et s'ils ont du retard dans leur facture à la métropole, ça peut parfois on a des retards et ils nous demandent le fonds de concours. Voilà, c'est un peu complexe au niveau gestion après. Alors le deuxième point, c'est la deuxième décision bonificative de l'année au budget primitif 2020, tout le monde s'est dit.
Donc on doit voter des crédits supplémentaires sur le chapitre de paiement des salaires. Donc ça s'explique avec le Covid, on a eu des arrêts maladie, donc des personnes à remplacer. On est obligé également de prévoir des heures en plus pour l'entretien des bâtiments, donc du personnel aussi à rémunérer pour le travail supplémentaire. Et donc, la somme qui avait été votée au budget est insuffisante pour finir de payer les salaires sur l'année 2020. Donc, étant donné qu'on a reçu des recettes supplémentaires, pour un montant de 25 000 euros, on propose de créditer ces 25 000 euros sur la ligne de paiement des salaires. Donc la décision modificative, c'est d'ajouter 25 000 euros sur le chapitre 012, puisqu'on a reçu des recettes supplémentaires sur le chapitre 013 pour 10 000 euros et le chapitre 74 pour 15 000 euros, ce qui fait au total 25 000 euros.
Donc notre résultat, nos prévisions de résultats ne sont pas affectées par cette
décision. Voilà, les résultats ne seront pas affectés puisqu'on a eu des recettes supplémentaires.
Voilà, depuis de nombreuses années, tous les ans, à la même époque, on vote des décisions modificatives sur la ligne, voilà, la ligne salaire. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'imprévus qui nous arrivent. En cours d'année, ils sont, ceci dit, un peu moins élevés. On pensait devoir faire une décision modificative plus importante que ça. Et finalement, on est content que ça descende à 25 000.
Enfin, même pas quelques mois. Il y a un mois, on parlait d'un peu plus de 30 000. Et finalement, 25 000...
vont suffire. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette décision modificative? S'il n'y en a pas, je la mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Et là, maintenant, je passe la parole à Hélène ou à Séverine pour les tarifs. Hélène? Pour les tarifs de séjour de ski.
C'était Séverine.
C'est Séverine? Oui, c'est Séverine.
Je ne sais pas.
Vas-y, et puis Hélène donnera des infos s'il y a besoin.
Tu me complètes s'il y a besoin d'informations complémentaires. Donc, en fait, malgré... La crise sanitaire, hein, le centre de loisirs organise quand même un séjour au ski. Il le prévoit du moins pour le mois de février, si ça peut se faire. Et donc, le coût du séjour est de 490 euros par enfant. Et il est proposé que la commune participe à hauteur de 15% par enfant. Ce qui ramènerait le coût à 417 euros. C'est un séjour qui sera organisé pour 9 enfants. Donc le coût total de la commune sera de 657 euros. Donc voilà, est-ce que vous acceptez que la commune participe à hauteur de 15% pour chaque enfant?
Oui. Alors, on peut dire que c'est les taux qui étant pratiqués classiquement depuis
des années. C'est ce qui se pratique habituellement. Ouais.
Je ne sais pas si Hélène, tu veux dire un mot par rapport à ça
Par rapport à ça, non. Après, c'est plus pour avoir
projet de faire, pour les séjours prochains, de faire en fonction des revenus plutôt que des
Ce sera pour l'année prochaine, on étudie ça. Par contre, Juliette, on peut rajouter que les personnes, les enfants qui vraiment sont... Il y a des dispositifs d'aide
pour du CCAS.
Pour les enfants dont les familles auraient des difficultés à prendre en charge. Il y a des aides prévues. Quoi. Donc ça, c'est pour le séjour de ski. Si tant est qu'il puisse se tenir, on verra. En tout cas, c'est sûr que pendant les vacances d'hiver, hein, c'est pas possible. Donc, on vous propose. Alors, toujours pareil, hein, c'était inscrit au budget, c'est sur le budget du centre de loisirs, hein, c'est déjà compris dans l'enveloppe. Donc, par rapport à cette proposition de prise en charge à hauteur de 15% donc, du tarif, du coût de ce séjour de ski, qui est contre, qui s'abstient, donc c'est adopté à l'unanimité. Et alors, toujours Séverine, quatrième point, c'est un point concernant l'exonération totale de loyers commerciaux.
Oui. Donc, pendant la première vague du Covid, on avait voulu aider nos commerces en les exonérant de leurs loyers. Et donc avec ce deuxième confinement et la fermeture des commerces de nouveau, voilà, il était proposé de continuer à exonérer les loyers de la brasserie Oppidum au moins jusqu'au mois de décembre.
Inclus.
Alors c'est sûr que là, on a appris tout récemment par le président qu'en fait, les bars ne pourront rouvrir, si tout se passe bien, hein, qu'au 20 janvier, c'est ça ?
20 janvier, oui.
Voilà. Donc là, on avait prévu une délibération inclue en décembre. On verra, je pense, en 2021, ce qu'il advient.
Oui.
Mais là, l'idée, c'était déjà de l'acter jusqu'en décembre. Donc par rapport à cette proposition, est-ce qu'il y a des observations aussi ? On reconduit ce qu'on avait fait au premier confinement. Est-ce qu'il y a des observations, des remarques ? Donc je mets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Et là, je passe la parole à Gilles Cuisin pour l'adhésion de la commune à l'agence départementale dénommée Héros Ingénierie.
Tout à fait. Alors, en fait, le département a créé un service qui s'appelle Héro Énergie et qui permet aux communes qui ont besoin sur leur territoire d'avoir des aides techniques au niveau juridique, techniques juridiques et financières par rapport donc au territoire pour ce qui est des initiatives locales et l'autonomie des collectivités. Donc, ça nous permettra surtout d'avoir un support quand on a besoin, par exemple, d'une préemption, d'un support technique et juridique. Ça va être le cas sur en fait, l'affaire qui va suivre. Savoir qu'ils vont nous préparer tous les documents, nous aider quant au choix et surtout à qu'est-ce qu'on doit faire comme dossier, parce que ce sont des dossiers assez complexes, assez techniques, et pour qu'ils ne soient pas retoqués, qu'ils soient valables et qu'on ne puisse pas se faire ensuite attaquer au niveau juridique. Avoir ce service-là du département est très important et nous permettra d'être beaucoup plus réactifs et surtout beaucoup plus juste par rapport à toutes ces... on va être clair, cette paperasserie, qui n'est pas très facile. Alors, il y a un coût d'adhésion qui est annuel, qui est de 20 centimes par habitant. Donc, c'est parti sur la base de l'INSEE de 2017, à 1883 habitants, ce qui fait un montant de 376 € pour le prix d'adhésion. Voilà. Sachant qu'ils ont déjà travaillé, on va dire, gratuitement sur le premier dossier qu'on leur a confié, le but c'était aussi d'avoir un partenariat avec eux et de pouvoir avoir ces documents.
Est-ce qu'il y a des questions à Gilles Cuisin ? C'est à faire. Bon, ben, s'il n'y en a pas, je la mets au vote. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Merci.
Et donc, du coup, on passe,
au deuxième sujet, qui est l'acquisition par préemption d'une parcelle. Donc, en fait, nous avons il nous a été notifié par DIA qu'un propriétaire habitant Saint-Georges-d'Orque voulait vendre à un autre propriétaire une parcelle au Truppelat, qui se situe donc au bout de la route de Saint-Georges quand on part de Murviel et qu'on arrive à Saint-Georges, juste avant le pont. Cette parcelle cadastrée AY167, en fait, sur un premier temps, n'est pas forcément complètement intégrée à l'ensemble de la colline, mais au vu de son impact qu'il pourrait y avoir, nous souhaiterons l'acquérir. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la commune a fait en 2010, avec la participation de la SAFER, l'acquisition de tout le secteur de Truppelat sur une superficie de plus de 9 hectares. Et il y a eu un programme donc, d'engager au niveau de ce secteur pour la préservation et surtout la mise en valeur de ce secteur en 2012 et 2013. Ça a été en partenariat avec l'État, le Conseil Général, justement, et la commune. Donc le but, c'était un dégagement, restauration et mise en valeur de l'aqueduc du 19e siècle, qui subvenait aux besoins de Saint-Georges-d'Orque en eau, la création d'une boucle pédestre autour de la colline, la création d'une aire de stationnement intégrée et la réfection des chemins des pins à l'ouest, et notamment pour lutter contre l'incendie. Aujourd'hui, il apparaît que cette parcelle qui se trouve juste en face du ruisseau et donc dans le secteur du Truppelat est très très sensible, puisqu'on y voit aujourd'hui, elle a déjà été un peu rehaussée, mais elle risque d'être encore rehaussée. Et la problématique, ça peut avoir un impact sur toute la colline qui est en face, et la colline qui est en face, c'est la colline que nous avons aménagée. Donc pour la préserver et pour éviter qu'il y ait une incidence, notamment à travers les ruisseaux qui vont être forcément déportés, et qu'en même temps on puisse avoir une sécurisation de l'ensemble du secteur et une maîtrise en fait de l'ensemble du secteur, nous souhaitons acquérir cette parcelle, sachant qu'elle n'aura pas vocation à être aménagée pour être ouverte au public, mais par contre qu'elle s'inscrit totalement dans la politique de protection des milieux naturels et fragiles et dans le cadre de protection du patrimoine qu'on a commencé en 2010 sur ce secteur.
Et la proposition d'acquisition.
Donc aujourd'hui, et c'est ce qu'on a fait justement avec Héroé Ingénierie, donc la proposition d'acquisition pour la parcelle de 1743 mètres carrés, au départ qui était donc prévu sur un prix de vente à 5000 euros, en fait, il a été vu que l'estimation des domaines était à peu près de 80 centimes hors taxe mètre carré, ce qui met la parcelle à 1400 euros hors taxe. Donc nous proposons un prix d'achat, un prix de préemption à ce tarif-là.
Merci beaucoup, Gilles. Alors, est-ce qu'il y a des questions?
Patrick. J'ai une question qu'on avait posée pour ce chiffre, par rapport au risque, si on a une grande crue autour de cette parcelle, que ce qui a été remblayé parte dans la rivière, tout ça, et qu'on soit en accusation, nous, en propriétaire. Est-ce que vous avez posé la question ou...
Alors, on n'a pas encore eu le retour, en fait, parce que ça faisait trop court et ils devaient nous donner tous les papiers, justement, de Héro Énergie. Et le but, c'était aussi d'avoir Héro Ingénierie et d'avoir leur aspect technique là-dessus. Il apparaît que, de toute façon, cette parcelle a déjà été relevée. Donc, il faudra déjà déblayer tout ce qui a été fait. Ça, c'est de la charge du propriétaire, qui a d'ailleurs... nous avons fait passer la policière municipale pour constater justement déjà les remblais. Et ensuite, il va falloir voir la hauteur en fait qui avait été faite et savoir si il faut le faire enlever ou pas. Et pour l'instant, on n'a pas encore eu la réponse là-dessus, en tout cas.
On le rajoutera à la préemption dès lors qu'on saura s'il faut le faire enlever ou pas.
Donc, si on voit de l'achat, c'est sous ces conditions-là.
Ouais.
Oui. Ah oui.
On peut préciser que la préemption ne dit pas qu'on va acheter.
Ouais.
Non.
Préemption, donc il est très possible que le propriétaire
retire de la vente.
Mais il n'y a pas d'obligation de
ça. Vu que c'est un acheteur, il ne faut pas qu'on soit responsable pour les dégâts à payer par derrière, qui vont dire quoi le
délai. Souvent, ce qui se passe dans ce. Voilà, souvent ce qui se passe dans ce genre de préemption, sachant que c'est donc un propriétaire qui laisse un professionnel déposer des terres et autres, lui vendre à 5000 euros, nous on va lui proposer 1400 euros, il va casser la vente, il y a de fortes chances. Ça m'étonnerait qu'il nous la laisse à 1400 euros, sachant qu'il n'aura plus la possibilité de laisser la personne poser ses gravats et autres. Donc le principe surtout c'était... d'acter ça et de montrer au propriétaire qu'il ne pouvait pas vendre et maintenant derrière aussi à notre policière municipale à continuer d'acter son œuvre dessus pour que ces remblais soient enlevés le plus tôt possible parce qu'effectivement il peut y avoir un impact aussi.
On a déjà par le passé préempté hein, sur la commune sur une parcelle, pareil où il y avait un impact paysager important et une parcelle pareil agricole faisait l'objet d'un compromis, enfin d'une déclaration d'intention d'aliéné, avec un prix de vente qui était exorbitant. Et donc, on souhaite que ces parcelles conservent aussi leur vocation naturelle, agricole, et ne deviennent pas des parcelles sujettes à spéculation. Derrière, il y a aussi la volonté de contenir le prix du foncier agricole et naturel. Parce que voir des parcelles comme celle-là partir, tu as dit 5 000 euros, ça fait plus de 3 euros du mètre carré, ça devient impossible, quoi. Il faut arriver, c'est aussi le rôle... Alors, on utilise l'outil de la préemption, mais là, il faut... Bien entendu, on a des arguments, soit des espaces naturels sensibles, soit de... Pour expliquer
aux espaces agricoles,
pour la SAFER, enfin, voilà, il faut qu'on... Chaque fois qu'on a, on a bien entendu, on met en avant ces éléments-là. Il faut qu'on arrive à lutter contre le... C'est le rôle des collectivités aussi de faire en sorte que le prix du foncier... Parce que bientôt, on ne pourra plus faire d'agriculture, quoi. Au prix où s'envole le foncier, donc voilà.
J'ai un cas d'école. Moi, j'ai une ville de 8000 m² en fermage. Je viens de recevoir une... On me demande si je veux l'acheter, puisque je peux préempter, puisque je suis fermier. 76 000 euros. D'accord. Il y a un mazé qui fait 15 mètres carrés, tout pourri, non isolé, plein d'or.
Ça fait 11 ou 12 euros du mètre carré.
Ah
là.
Mais c'est la folie.
Elle produit bien.
Et la propriétaire m'a dit, mais des demandes, j'en ai eu. Et puis sérieux, c'est le notaire qui m'a envoyé les documents, donc le mec il va acheter. Alors, je ne sais pas ce que va faire la SAFER, mais c'est de la folie.
Il faut saisir la SAFER. Hein.
Le problème de la SAFER, c'est que s'il y a un viticulteur qui va acheter ce prix-là, la SAFER ne prend rien. Ça reste dans l'agriculture.
Ah oui.
Ça ne sera pas bien parce que le prix lui semble élevé.
Ouais. Je ne peux pas bloquer le.
Si c'est un agriculteur légalement,
c'est fou. Évidemment, je n'ai pas préempté, vous l'avez douté. C'est la folie. Ouais.
Il va falloir vendre les bouteilles de lait très cher.
Ouf.
Non, ça devient vraiment
catastrophique.
Donc, en effet, on sera vigilant hein, sur ce que tu soulèves, Patrick. Mais moyennant cette précaution qu'on prendra, est-ce que il y a d'autres observations sur cette affaire? Sinon, je la mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Merci. Alors, on passe toujours avec Gilles à l'affaire numéro 7, un transfert de propriété à la métropole au niveau de la station d'épuration.
Oui. Donc, la métropole, comme vous l'avez vu, a investi dans notre station d'épuration, a agrandi notre station d'épuration, dû aussi à l'agrandissement du village et aux besoins. Pour autant, comme la métropole a la compétence, en fait... Elle a besoin d'être aussi maître des terrains et être en propriété. Donc les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucune indemnité ou taxe, ni aucun droit, salaire ou honoraire. C'est ce qui est prévu. On leur reverse à titre gracieux. Donc les quatre parcelles qui sont concernées sont les parcelles aujourd'hui sur lesquelles Il y avait déjà l'ancienne station et la nouvelle, enfin, qui s'est agrandie dessus. Nous avons eu aussi une demande pour, alors je la précise, hein, parce qu'elle n'est pas là-dessus, oui. Sur une parcelle, la parcelle AY250, donc qui n'est pas dans le référencement aujourd'hui, pour lequel, pour l'instant, nous allons discuter avec la métropole pour, entre la demande qu'ils ont faite sur cette parcelle et la réalité des besoins qu'ils ont. Donc on va revenir vers eux et on vous la resoumettra dans un deuxième temps. Mais pour un premier temps, on va rester sur les quatre parcelles sur lesquelles aujourd'hui la station d'épuration existe, à savoir les parcelles AY241, 245, 246 et 247. Voilà, c'est simplement, on les va les céder à titre gratuit à Montpellier Méditerranée Métropole dans le cadre de leurs compétences sur l'assainissement. Et
ça fait 25 000 mètres carrés quand même, 2 hectares et demi.
Oui. Donc c'est la superficie. Voilà.
Mais là, on a déjà transféré les terrains pour le point propreté l'année dernière. Et donc là où ils exercent leurs compétences, et là, la station d'épuration. Ils viennent de réhabiliter la station d'épuration. C'est quand même des gros travaux. Je ne sais pas si vous êtes allé voir. Plus de 2 millions d'euros qui sont bientôt terminés, je pense. Puisque je crois qu'on vous avait dit qu'en fin d'année ou début d'année prochaine, ils seront terminés. Je pense que ce sera intéressant de... On va voir avec la métropole, mais qu'à l'occasion de quand les travaux seront terminés et que les conditions sanitaires le permettront, qu'il y ait des explications et des visites qui soient données, parce que je crois que c'est un système assez original avec la phytoépuration avec des roseaux là, qui, entre autres, hein, c'est très complexe hein, tout le processus qui est mis en place. Donc ça, je pense que ça vaudra le coup d'avoir des explications, c'est pédagogique. Peut-être même qu'on pourra organiser des visites publiques hein, pour les gens du village qui ont envie de savoir ce qu'il advient de leurs eaux usées. Toujours intéressant de savoir. Est-ce qu'il y a des observations sur ce...
Sachant qu'effectivement, ils ont fait cet agrandissement, mais que ça ne concerne que la commune de Murviel, puisqu'on est une des rares communes sur la métropole à avoir notre propre station... d'épuration, alors que les autres mutualisent, mais la spécificité de Murviel et la localisation de Murviel fait que nous sommes autonomes là-dessus. Mais il faut leur rétrocéder en contrepartie les terrains.
Des observations sur cette session de terrain? Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Alors après, donc là, on arrive à une affaire concernant une convention avec le conseil de gestion.
Oui, c'est ça.
Le centre de gestion, pardon. C'est qui vous en dit?
Oui, bon.
Voilà. Donc, on a déjà fait ça. Je ne sais plus si c'est tous les 3 ans, enfin, tous les combien il faut qu'on renouvelle cette convention. Parce que là, donc, le centre de gestion, donc, pour la prise en charge du risque santé pour les agents de la municipalité, organise un marché, quoi, une mise en concurrence. Donc, pour l'ensemble des communes qui le souhaitent, adhérer à cette... c'est comme un groupement de commandes, en fait, hein. Et donc, vont mettre en concurrence pour conclure, pour trouver un prestataire pour assurer ce risque santé. Et donc, on nous demande de donner mandat au centre de gestion pour organiser la procédure de mise en concurrence, pour conclure cette convention. Peut-être expliquer ce régime. Nathalie, tu peux expliquer?
Monsieur Gorik a mis une note, c'est pas grave. Oui, c'est ça. Alors, en fait, ça date de 2012, la première fois où on a mis en concurrence avec le centre de gestion. L'idée, c'est qu'ils fassent le tour des mutuelles. Et ensuite, ils vont conclure un contrat groupe, donc collectif. Et les collectivités qui le souhaitent et qui auront donné mandat au centre de gestion pourront proposer aux agents de la collectivité d'adhérer ou non, si les tarifs sont intéressants, la mutuelle qui sera retenue par le centre de gestion. C'est tout simplement...
C'est quoi la mutuelle qu'on a
Là, c'est MNT, mais là, c'est à titre individuel, parce que c'était un contrat collectif qui a été transformé en contrat individuel. Donc pour l'instant, la plupart des agents ont souhaité poursuivre avec ça, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ils resteront libres de faire ce qu'ils veulent, mais si c'est intéressant, on pourra toujours proposer ça, et sachant que la collectivité prend en charge, soit sur le salaire directement, soit en versant à l'agent une participation à hauteur de 20 euros pour participer au risque santé.
Voilà. Donc nous, d'un point de vue financier, budgétaire, ça ne va pas forcément changer quoi que ce soit à l'avenir.
Non, c'est pour les agents. Là,
c'est pour les agents. Donc c'est une facilité, je dirais, qui est offerte aux agents derrière cette proposition de mutuelle. C'est ça, hein ?
Oui, c'est ça.
Séverine, tu veux ajouter quelque chose ou...
Ah non,
non. Est-ce qu'il y a des observations ou des demandes d'infos supplémentaires ? Donc je mets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient? Adopté la l'unanimité. Donc le mandat au centre de gestion pour faire la mise en concurrence de mutuelle. Donc l'affaire suivante, je vais présenter, c'est une convention de mise à disposition de mutualisation d'un cinémomètre. Donc un cinémomètre, c'est ce qu'on appelle classiquement des jumelles.
Radar
jumelles. Voilà. Peut-être expliquer que aujourd'hui, quand il y a des contrôles de vitesse qui doivent être faits sur le territoire de Murviel, la seule façon d'avoir des contrôles de vitesse avec des jumelles, c'est de pouvoir profiter de celle de la gendarmerie aujourd'hui. Or, la compagnie de gendarmerie de Castelnau, dont dépend la brigade de Saint-Georges, ne dispose que d'une paire de jumelles pour toute la compagnie. C'est-à-dire pour les... Je ne sais plus combien de communes il y a dans la compagnie, si ce n'est pas 50. Enfin, autant vous dire que les jumelles, on les voit très rarement sur Mondial. Donc, or, ce qu'il faut savoir, c'est que quand le CIVOM Venet-Mausson existait, il avait à l'époque acquis un cinémomètre. Et que quand le CIVOM s'est dissous, certaines communes ont continué à conserver et ont mutualisé ces jumelles. Donc elles tournent aujourd'hui entre les communes de Pignan, Saint-Georges, La Vérune. Et donc ce qu'on souhaite, c'est pouvoir aussi bénéficier à tour de rôle, hein, de ce cinémomètre. Et donc de rejoindre ce système mutualisé. Et du coup, il y a aussi Cournon Terral qui va rejoindre aussi la convention entre les cinq, du coup, cinq communes au lieu de trois. Donc concrètement, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on va se coordonner entre nous pour faire tourner le cinémomètre et qu'on s'engage à participer à l'entretien. Donc ce sera à tour de rôle, hein. Chaque commune à tour de rôle, chaque année, prendra en charge l'entretien des jumelles. Ça s'élève aujourd'hui à 366 euros, mais ça peut évoluer, bien entendu. Et voilà, on la prendra une année sur cinq, vu qu'il n'y a que cinq communes. Donc ça s'étalonne tous les ans. Ça nous, voilà. Et puis après, ben, s'il y a d'autres frais d'entretien ou quoi, on s'engage à participer à ces entretiens. Donc c'est maintenant, comme on élargit le périmètre des communes, dans chacune des cinq communes, chacune des cinq communes doit délibérer à nouveau pour repasser cette convention. Voilà, nous on souhaite, l'équipe municipale, voilà, on en a beaucoup discuté, la question de la circulation et surtout des vitesses excessives à laquelle on roule sur Murviel, ça devient un problème grave. Que ce soit les véhicules qui transitent, qui sont de plus en plus nombreux, hein, le matin et le soir, aux heures de pointe, ça circule très vite, que ce soit les livreurs, et pendant le confinement, ils sont nombreux, les livreurs, parce que tout le monde achète sur Internet, et alors ils livrent à toute vitesse, ils gagnent toutes les... Voilà, et puis parfois même des Murvielois, hein, faut pas se le cacher, qui roulent très vite. Donc, même si on met des dispositifs, pour en dire un mot, Patrick, sur les dispositifs qu'on a mis en place récemment pour essayer de ralentir la circulation, il reste que, de temps en temps, des contrôles doivent pouvoir permettre de sensibiliser. Enfin, on fait de la prévention, c'est sûr, mais il faut aussi de temps en temps sanctionner quand ça devient vraiment nécessaire. Je ne sais pas, Patrick, si tu veux dire un mot là sur les
bon,
le stop.
Et surtout, moi, j'ai fait le gros souci qu'on a, principalement, c'est quand même les livreurs, qui eux, je ne sais plus comment faire pour prendre les photos du véhicule, essayer de retrouver le propriétaire, mais c'était au moins un petit peu, moi j'ai essayé par le moyen détourné, en fait, on tombe souvent sur des locations de camions, et on n'a pas autorité à
bien sûr.
Demander le nom de la personne.
La vive ubérisation des transports.
Hein. Voilà.
Vive ubérisation des transports. Faire vite,
ouais. Voilà, et donc on regarde aussi, on veille à pouvoir ralentir, freiner la circulation sur le village avec des dispositifs. Il y a beaucoup de riverains qui nous envoient des courriers en se plaignant des vitesses excessives, hein, que ce soit la Rougière Longue, enfin partout, hein, beaucoup de Murviellois se plaignent. Et avant qu'il arrive un malheur, il faut qu'on prenne des dispositions. Voilà, donc est-ce qu'il y a des observations par rapport à cette convention avec entre les cinq communes? S'il n'y en a pas, je crois que la convention, on la signe avec la Virune, c'est ça?
Avec
les cinq communes,
ouais,
c'est une convention entre les cinq communes. Je mets au vote, qui est contre? Qui s'abstient?
Adopté à l'unanimité, merci.
Et après, donc, la délibération suivante concerne, et la dernière, hein, donc une convention que nous proposons de signer avec la gendarmerie, donc une convention communale de coordination entre la police municipale et la gendarmerie. Alors, cette convention, c'est une convention type qui est encadrée par le préfet du département. Et ça concerne la police de la route, mais pas que. Hein, c'est l'ensemble des domaines, que ce soit la lutte contre les cambriolages, voilà, les questions de troubles à la tranquillité, sécurité routière, violence intrafamiliale, parfois il faut intervenir. La question de la police de l'environnement, la lutte contre les pollutions, les nuisances, les violences scolaires, etc. Enfin bon, il y a beaucoup de sujets dans lesquels on peut être amené à intervenir. La police municipale peut intervenir. Et l'objectif de cette convention, ça définit bien la coordination, comment on va se coordonner avec la gendarmerie pour pouvoir être le plus efficace possible. Donc, ça rappelle, donc dans la convention, on rappelle la nature de la fonction de la police municipale par rapport à la gendarmerie, donc les prérogatives de chacun. Ça décline aussi les dispositifs de concertation mutuelle, alors le dispositif de réunion, d'alerte, d'échange, voire même groupe WhatsApp, je crois. Ils ont mis en place enfin tout un dispositif pour pouvoir bien dialoguer, se coordonner. Je sais qu'il y a des réunions régulières organisées par la gendarmerie qui se font en visio en ce moment, mais pour faire toute cette coordination. C'est aussi on a des accords qui ont été mis, par exemple, par rapport à la transmission des arrêtés, etc. Enfin bon, tout ce qui fait que ça va fluidifier et le dialogue et l'action conjointe gendarmerie-police. Pour que ça puisse se mettre en place, il faut qu'aujourd'hui, notre policière municipale n'est pas encore armée. Et donc, elle va être, dès qu'elle pourra faire la formation, c'est-à-dire en 2021, parce qu'aujourd'hui, toutes les formations sont arrêtées avec le Covid. Donc, l'armement de base, c'est-à-dire la matraque télescopique et la bombe lacrymogène, qui est vraiment le niveau d'armement minimal, qui est celui qu'avaient les policiers municipaux précédents, qu'il s'agisse de Karim ou de Manon. Donc ça, par contre, c'est nécessaire qu'elle ait cet armement minimal. Donc elle va faire la formation pour ça dès que possible, dès que les formations seront ouverte. Pourquoi la gendarmerie le demande? C'est parce qu'il ne faut pas que, lors d'une intervention, les gendarmes aient aussi à protéger la police municipale. Parce que ça deviendrait compliqué. Il faut que la police municipale ait un minimum de possibilité de se protéger. Voilà, donc des patrouilles de contact mixte, bon, toutes sortes de choses qui pourront se faire ensemble, le partage d'informations, de la communication opérationnelle, de la prévention menée ensemble, l'encadrement des manifestations sur la voie publique, notamment tout ce qui va être autour des fêtes, fêtes de village, etc., se coordonner. Voilà. Donc je pense qu'on a vraiment à y gagner, d'autant plus que la policière municipale est toute seule. Elle est vraiment en attente de ça. Je ne sais pas s'il y a des observations par rapport à ce projet de convention.
Ce n'est pas obligatoire.
Non.
Ça me semble obligatoire. Mais le...
C'est pas obligatoire du tout. D'ailleurs, on ne l'avait pas fait dans le mandat précédent.
Je ne pensais pas que ça existait.
Ben oui, non. C'est pas obligatoire, mais ça, c'est très très utile, je pense. Ah ben oui. Là, on peut saluer que Armel fait tout un travail de remise en place de tous les outils, de toutes les conventions, de tous les cadres qui vont permettre de pouvoir bien fonctionner à l'avenir. Des observations? Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Donc, on a terminé sur ce... point-là. Pour ma part, j'avais pas de questions diverses, juste peut-être une petite information relative à la CAF coopérative. Une bonne nouvelle, l'association La CAF Coop, dont la commune fait partie et membre, hein, a reçu donc une subvention de la métropole de 25 000 euros. Donc le budget de l'étude de faisabilité est quasiment bouclé. Et donc, du coup, va pouvoir engager le recrutement d'un architecte pour lancer l'étude, ce dossier qui est suivi par Gilles. C'est parti. Il y a déjà pas mal d'architectes qui sont intéressés par faire l'étude, donc architecte programmiste. Hein.
Oui, pour voilà. Le moment, ce n'est pas le concours d'architecte.
Non,
architecte programmiste. Voilà. Qui va établir un programme en fait en fonction des besoins de chacun, des souhaits de chacun.
Voilà, donc et qu'il soit réaliste, étant donné les
programmistes
économistes, et qu'il soit réaliste par rapport aux caractéristiques voilà. Du bâtiment, de ce qu'on peut y faire en termes de travaux, d'espace, et en fonction aussi de tous les règles, les règlements, les codes qui régissent chacune des activités qui vont être logées dans le bâtiment.
Et le PLU et tout ça.
Et le PPRI. Et le PPRI et tout et tout. Donc. Un travail important, et ensuite devrait suivre une étude de marché pour cibler la zone dans laquelle on pourra trouver les preneurs, les futurs locataires, notamment pour l'espace de coworking. Et puis une étude juridique pour le montage juridique aussi à la fois du portage d'acquisition foncière et des travaux, et puis pour la gestion de ce bâtiment. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc on est content que la métropole, à nouveau, soutienne. Je remercie le président de la FOS qui, en plein conseil métropolitain, a déclaré que le projet était un très beau projet et qui sera accompagné par la métropole. et puis l'autre bonne nouvelle, vous l'avez sûrement vu aussi, c'est que et on remercie Yves qu'on a fait part aussi dans le Midi Libre, c'est que le projet, les travaux de mise en protection du forum, enfin des salles nord du forum se terminaient. Et là, ça c'est des travaux qui ont duré longtemps, qui étaient vraiment très, très lourds, hein, qui ont coûté beaucoup plus cher, je crois bien, que prévu au départ, parce que techniquement c'était assez costaud. Il s'agit du système d'ancrage dans les parois, de la question du pluvial. Enfin bon, c'était compliqué. Hein,
comme c'est très joli. C'est harmonieux, c'est beau.
Ouais, c'est joli, c'est léger, hein, comme une plume là, posée sur le... Le fait que ce ne soit pas régulier non plus, qu'il y ait des vagues comme ça, je trouve que c'est...
Et nous, on va faire de prévu là.
Ça, c'est
Ça serait bien qu'une inauguration. Pour l'instant, il y a l'avenue du Champ des Moulins qu'on n'a pas inaugurée. Non plus, il y a quand même des gros travaux qui se terminent sur Murviel. C'est voilà, c'est chantier sur le forum, la station de l'inauguration.
De reporter les jeunes.
Oui.
Donc, c'était
fin mars.
Fin mars, voilà. Et justement, ça serait l'occasion d'inaugurer.
Bien sûr, oui. À l'occasion des journées nationales d'archéologie, je crois.
Aussi, voilà. Tout ça, donc,
ouais. C'est plus tard.
Ouais. Mais on peut prendre un peu de temps de faire ça bien. Et de faire, voilà, quand on sera revenu dans des conditions un peu plus normales et plus. Voilà, il y aura aussi la station d'épuration, comme je disais. Voilà, il y a un ensemble de travaux là, qui se terminent. Et maintenant, on travaille sur d'autres futurs, nouveaux travaux. Pour le mandat, mais on voit qu'il faut beaucoup d'années hein, avant que ça se termine. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions diverses.
Non, ce n'est pas une question diverse, c'est juste une information. Les deux premières familles murvielloises vont s'installer d'ici, même pas quelques jours, parce qu'il y en a qui ont déjà déménagé, sur les Saligniers. Donc les Saligniers ont démarré et les deux premières familles s'installent là. Donc on est en train de voir avec la poste, les poubelles, les panneaux, les... Enfin, voilà.
Ah, mais ça y est,
elle s'installe, là.
D'accord.
Le loin et le loup.
Le
loin
et le loup. Tu connais tous les loups.
Ah oui, je connais tous les loups.
Et donc, vous l'avez vu aussi, on l'a indiqué sur l'application Panneau Pocket, là, qui fonctionne bien, pour informer les Neuviennois. Les travaux du collectif de logements sociaux ont bien commencé, ça y est. Et normalement, une livraison fin 2021.
Début 2022.
2022. Ça veut dire que ces logements sociaux, il y en a 29, pourront être attribués, si tout se passe bien. Maintenant, on prend beaucoup de précautions parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver encore, qui peut freiner les travaux. Mais si tout se déroulait normalement, au printemps, au premier trimestre, au printemps 2022, l'attribution des logements sociaux, des 29 logements sociaux.
Est-ce qu'on a eu une réponse de GGL sur le démarrage des Saligniers Sud et la mise en état de la route?
Les transactions avec le bailleur social ne sont pas encore tout à fait abouties. Ouais. Nous avons appris ça
avant-hier.
Avant-hier.
Hier, nous avons appris effectivement que les discussions qui avaient été engagées, pour l'instant, ont été un peu gelées et il va falloir réactiver un petit peu ça. Donc, nous n'avons pas de visibilité sur les Saligniers Sud.
Et relogement, hein. Le bailleur social, c'est relogement, hein, qui est déjà sur le lot collectif et qui doit. Bien, mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions diverses, on va arrêter là. Le conseil est terminé. Bonne soirée à tout le monde.
Merci.